vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato ma no, e va bene lo so, ma com'è bella la vita e la tua faccia alle sei di mattina.
Ma tu non piangere.
Aligre FM présente Cappuccino.
Bonjour Alain.
Oui, oui, bonjour à toutes et tutti, tutti.
Oui, alors tu as une annonce à nous faire.
J'ai une annonce à vous faire puisque et on a des invitations surtout à faire gagner à nos auditeurs pour une pièce de théâtre que je vous ai annoncée, il y a quelques semaines. Cette pièce, c'est Come Prima et c'est une pièce qui est inspirée d'une bande dessinée. Une bande dessinée d'un dessinateur qui s'appelle Alfred, dont le vrai nom est Lionel Papagalli. Notez bien Lionel Papagalli. Et donc cette bande dessinée a été adaptée par Laetitia Grimaldi pour la compagnie Not Meet Under. Et c'est l'histoire de deux frères italiens qui se retrouvent. On est en 1958, donc très peu de temps après la guerre. Et on va découvrir au cours de ce road movie que ils se sont séparés. Pourquoi ils se sont séparés? Peut-être qu'un a eu des rapports un peu avec le fascisme, etc. Même dans leur vie sentimentale. Et ils vont à la recherche de leur père. Donc c'est une sorte de road movie, mais aussi de comédie musicale, puisque tout à l'heure, on a entendu 24 000 Abaci. Et bien justement, c'est une des chansons qui est chantée dans cette pièce. Donc cette pièce se joue au Théâtre des Déchargeurs, qui se trouve 3 rue des Déchargeurs. C'est tout près de la rue de Rivoli, au métro Châtelet. Ça se joue les jeudis, vendredis et samedis, c'est-à-dire les prochains 8, 9 et 10 juin, ou bien 15, 16 et 17 juin. Pour ça, donc, pour gagner quelques invitations, il faut nous donner le vrai nom de l'auteur de la bande dessinée. Voilà, que j'ai noté. Donc, pour réserver, si vous ne gagnez pas, vous pouvez toujours réserver au théâtre en appelant le 01 42 36 00 50. Je répète, 01 42 36 00 50. Et si vous avez retenu le vrai nom de Alfred, qui a dessiné cette bande dessinée, vous nous appelez au 01 40 24, 29, 29. Il nous reste un peu de temps. Je vous parlais aussi des mosaïstes frioulants qui étaient à la maison. L'exposition se termine aujourd'hui. Facchina, le Gian Domenico Facchina, à la Maison de l'Italie, et l'entreprise Pellarin, qui eux sont à côté à la Fondation Bermans le Pôtre. Tout ça à la cité universitaire. Et aujourd'hui, il y a une visite au Père Lachaise, organisé par le France Frioul, et avec notamment la visite de la tombe de Facchina et de certains autres Italiens, comme on a pu avoir dans ce magnifique ouvrage qui a été édité sur les Italiens du Père Lachaise. Voilà, donc maintenant vous pouvez appeler au 01 40 24 29 29 pour la pièce de théâtre Come Prima.
Bien. Bon dimanche à tous, vous êtes à l'écoute de Cappuccino sur le 93.1. Le téléphone, c'est le 01 40 24 29 29. Au sommaire de Cappuccino ce matin, un très grand du cinéma français, qui était pourtant italien, aimé de tout le monde, Lino Ventura. Le costaud au grand cœur sera à l'honneur aujourd'hui avec Jean Mazzesi qui m'épaulera.
Bonjour à tous nos auditeurs.
Christophe Lasserre Ventura sera notre invité. Il est le petit-fils de Lino et président de la fondation Personnage. Avant de découvrir la carrière de Lino Ventura, Jean, tu nous proposes d'écouter une musique de film d'un des films de Lino Ventura.
Oui, effectivement, c'est Espion lève-toi, un film d'Yves Boisset qui est sorti en 1982, dont la musique est d'Ennio Morricone.
Thank you.
Cette entrevue que vous allez écouter a été réalisée grâce au contact de Nanda Masserini, l'ancienne présidente du Cercle des Bergamasques d'Île-de-France, que l'on remercie. Et on lui souhaite un bon anniversaire aujourd'hui, 4 juin. L'intervista che ascolterete è stata realizzata grazie ai contatti di Nanda Masserini, anziana presidente del Circolo dei Bergamaschi in Ile-de-France, che ringraziamo e a chi auguriamo un buon compleanno proprio oggi, 4 giugno. Buon compleanno, Nanda, anche da parte di Raffaele e Renato. E grazie.
On vous propose de découvrir l'un des acteurs du cinéma français les plus aimés du public. Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura, dit Lino, qui est né le 14 juillet 1919 à Parme. Il est le fils de Giovanni Ventura et Luisa Borini. Il quitte l'Italie avec sa mère à l'âge de 8 ans pour rejoindre son père qui est représentant de commerce à Paris. Lino et sa mère s'installent à Montreuil chez des amis. Dès l'âge de 9 ans, il abandonne l'école pour travailler comme portier, livreur ou bien mécanicien et bien d'autres métiers. Il exerce tous ses métiers pour aider sa mère à les faire vivre.
À l'âge de 16 ans, il aborde le domaine de la lutte en s'entraînant régulièrement avec le champion autrichien Fred Oberländer. C'est à cette époque qu'il rencontre Odette Lecomte, qui deviendra sa femme le 8 janvier 1942. Ayant conservé la nationalité italienne, il est engagé par l'armée italienne au début de la Seconde Guerre mondiale. En 1943, il déserte et retourne en France. Menacé de délation et afin de ne pas être arrêté par les Allemands, il se cache dans une maison à Barassé dans le département de la Maine-et-Noire. Après-guerre, il entame une carrière de catcheur. Grâce à ses nombreuses victoires, les spectateurs lui attribuent rapidement le surnom évocateur de la fusée italienne. Grâce à ce sport, et selon ses dires, il se forge une véritable mentalité de gagnant.
Il atteint le sommet de sa carrière de catcheur en 1950, quand il devient champion d'Europe des poids moyens pour l'Italie. Malheureusement, le 31 mars 1950, sa carrière s'arrête car il est victime d'une double fracture ouverte à la jambe droite. Il devient alors organisateur de combats pour une vingtaine de catcheurs de son écurie. En 1953, le réalisateur Jacques Becker cherche une force de la nature de type italien pour jouer un rôle face à Jean Gabin dans Touchez pas au Grisby. Il rencontre Nino Ventura et souhaite que ce soit lui qui joue le rôle d'Angelo, un chef de gang opposé au personnage incarné par Jean Gabin. Lino Ventura, peu attiré par le cinéma et sûr d'essuyer un refus, demande un cachet presque équivalent à celui de Jean Gabin. À sa grande surprise, sa demande est acceptée. Le film obtient un succès immense, son nom devient célèbre dans le milieu du cinéma et Lino Ventura est immédiatement adopté par le public. Écoutons la musique du film « Touchez pas au Grisby », musique composé par Jean Wiener.
Sa carrure, son jeu naturel de comédien vont faire de lui l'acteur idéal pour de nombreux films où il tiendra le rôle de truand ou de policier au grand cœur. Quelques titres parmi d'autres, Razzia sur la schnouf, Le feu aux poudres, Maigret tend un piège, Ascenseur pour l'échafaud. Mais il lui manque encore un rôle de tête d'affiche, rôle qu'il va enfin obtenir en 1958 avec le film Le gorille vous salue bien de Bernard Bordery, qui va obtenir un immense succès. Ce film aura bientôt une suite sous le titre Le fauve est lâché. Grâce à ces deux films, sa carrière de comédien est définitivement lancée. À cette période, il devient le grand ami de Jean Gabin, avec qui il tournera 5 films en 40 ans. Vont suivre de nombreux films à succès, dont on retiendra plus particulièrement Classe Touriste de Claude Sautet en 1960 ou bien Un taxi pour Tobrouk de Denis de la Patellière en 1961. Il est maintenant un comédien reconnu et recherché, ce qui va lui permettre de tourner des films en Italie, en Espagne et en Allemagne.
C'est durant cette période qu'il va contribuer au succès d'un film parodique qui obtiendra rapidement le statut de film culte, Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner.
Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Encore des sandwichs à la purée d'anchois, ils partent bien ceux-là.
Voilà vos encaissements en retard. Il y a gravé d'une amende en plus.
Les Wolfenis ont essayé de me flinguer.
Oui, maître. C'est pourtant pas leur genre.
Oui, bah ça prouve qu'ils ont changé de genre. Voilà.
Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter.
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Dans des rôles d'action, de policier ou de malfaiteur, il enchaîne les succès au cinéma. Comment ne pas nommer 100 000 dollars au soleil d'Henri Verneuil avec Belmondo, Les Grandes Gueules de Robert Enrico avec Bourvil, Les Aventuriers de Robert Enrico toujours avec Alain Delon, Le Deuxième Souffle et L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville ou encore Garde à vue de Claude Miller, dont on va écouter un extrait qui sera suivi de la musique du film Le Clan des Siciliens d'Henri Verneuil, dont la musique a été composée par Ennio Morricone.
Nom, prénom, profession, Martino.
Il me l'a déjà demandé.
Oui, maintenant c'est moi qui vous le demande. Puisque vous voulez qu'on tape toutes les demandes et toutes les réponses, alors j'attends les réponses. Vous vous appelez Martino?
Oui.
Jérôme?
Oui, Jérôme, Charles-Émile.
Notaire 43 boulevard de Lattre, je vous remanche.
Oui.
Vous êtes marié?
Oui.
Sans enfant?
Sans enfant.
Pourquoi, ça peut des saletés?
Thank you.
Au cours des années 70 et 80, il est maintenant devenu un monstre sacré du cinéma français. Les succès s'enchaînent les uns après les autres, sans jamais décevoir un public de plus en plus admiratif du personnage. Son nom, à l'affiche, assure à lui seul la promotion d'un film. Impossible de tous les nommer, mais citons un peu au hasard Un papillon sur l'épaule, Boulevard du Rhum, Le Silencieux, La Gifle, L'Homme en colère, Cosa Nostra avec Charles Bronson, Adieu Paulet avec Patrick Devers, Les Misérables de Robert Hossein et 100 jours à Palerme de Giuseppe Ferrara, où il tient le rôle du général Della Chiesa en lutte contre la mafia, dont on va écouter un extrait d'une interview sur la présentation du film.
100 jours à Palerme, que nous venons de voir, c'était donc une première diffusion avec Lino Ventura qui est notre invité ce soir. Comment s'est passé le tournage, Lino? Il n'y a pas eu de pression de quelques syndicats organisés autour?
Non, vous savez, je crois que la mafia, ce genre de choses ne l'intéresse pas beaucoup.
C'est de l'anecdote pour eux.
Pour eux, c'est rien du tout. Si vraiment ils voulaient que ça ne se tourne pas, bon, ça ne se tournerait pas. Avec des moyens d'ailleurs très simples, c'est-à-dire que vous pourriez arriver sur le tournage et demain vous n'aurez pas de camion, vous n'aurez pas de technicien, vous n'aurez rien du tout. La seule chose qui pouvait m'arriver, à un moment donné je m'y suis attendu un petit peu si vous voulez, c'est ce qu'on appelle l'avertissement, c'est-à-dire on vient vous voir, on vous dit tu fais tes valises, il y a un avion dans une heure, tu le prends et tu rentres chez toi.
Ça vous est arrivé ça?
Non. Mais bon. Je veux dire, c'est classique. Et ouais. La seule chose qui vous reste à faire, c'est pas la peine de faire le courageux, c'est de faire vos valises et de rentrer chez vous, c'est tout.
Est-ce que ça a bien fonctionné avec le metteur en scène, comme vous le souhaitiez?
Pas très bien, non.
Ah ouais.
Non, pas très bien.
Ouais. Mais ça tient à quoi, ça? Qu'est-ce qui ne collait pas?
J'aime pas beaucoup étaler ce genre de choses. D'abord, c'est les chimiques, ce sont des atomes crochus, ce sont des pensées différentes, des conceptions différentes. Et il faut dire aussi que... son qualificatif de metteur en scène, à mon avis, est un peu usurpé.
Au sommet d'une carrière que l'on peut aisément définir comme exemplaire, il devait déclarer au cours d'une émission de télévision « Soyons honnêtes, je ne suis pas un acteur, je ne suis ni Laurence Olivier, ni Robert Hirsch, je ne suis qu'un comédien instinctif. » Pourtant, combien d'acteurs, en abordant une carrière cinématographique, auraient souhaité obtenir une telle reconnaissance et une telle admiration du public?
Quittons le domaine du cinéma pour aborder sa vie privée. Particulièrement pudique, Lino Ventura est toujours parvenu à la préserver des médias. Deux domaines ont tenu une grande importance dans sa vie. L'amitié, avec notamment Brassens, Brel, Gabin, César, Claude Sautet ou José Giovanni, et les plaisirs de la table. Marié avec Odette en 1942, ils auront ensemble 4 enfants. Malheureusement, un des enfants est victime d'un problème d'handicap à la naissance. Découvrant le manque de structures d'aide et d'accueil pour les enfants handicapés, Lino et Odette créent à la suite de l'appel du 6 décembre 1965 l'association caritative Personnage, consacrée à l'aide à l'enfance inadaptée, devenue une fondation en mai 2016. Fondation dont l'importance sera longuement évoquée au cours de cette émission.
Lino Ventura a conservé la nationalité italienne tout au long de sa vie, ne souhaitant pas renier avec une signature sur un simple bout de papier la terre où il était né. Lino Ventura nous a quittés le 22 octobre 1987 d'une crise cardiaque. Il repose au cimetière du Val-Saint-Germain dans le département de l'Essonne. Alors terminons cette biographie avec la musique du film « Le Roufian » de son ami José Giovanni, ayant comme partenaire à l'écran Claudia Cardinale et Bernard Giraudeau.
Thank you.
Bon réveil à tous, vous êtes à l'écoute de Cappuccino le dimanche matin sur le 93.1, le téléphone le 01 40 24 29 29. Et après cette belle biographie de Lino Ventura, une carrière extraordinaire, nous sommes avec Monsieur Christophe Lasserre Ventura. Bonjour de nouveau.
Bonjour.
Merci d'avoir pris le temps pour rendre hommage à Lino Ventura, votre grand-père. Et aussi de son œuvre, la Fondation Personnage, qui est votre œuvre depuis 23 ans, puisque vous en êtes le président depuis 1995. Alors, avant d'aborder les questions sur la Fondation Personnage, avez-vous des remarques ou des anecdotes à dire par rapport à la biographie de votre grand-père ?
Non, je ne peux qu'adhérer à cette biographie qui était très bien faite. Je peux simplement peut-être raconter une petite anecdote quant à la nationalité de mon grand-père, dont vous avez rappelé qu'il a gardé la nationalité italienne. Comme vous l'avez souligné, mon grand-père était quelqu'un d'extrêmement pudique. Et il faut savoir que moi, pendant toute mon enfance, j'ai pensé que mon grand-père était français. Alors je savais qu'il était italien de naissance, mais pour moi, il était de nationalité française. Et il s'avère que j'ai habité chez mes grands-parents de l'âge de 17 à 22 ans, donc je partageais le quotidien de mon grand-père. Et un jour, donc nous habitions à Saint-Cloud, dans sa maison de Saint-Cloud. Ma chambre était au dernier étage et il avait son bureau en rez-de-jardin. Et un jour, je reçois donc un coup de fil de mon grand-père qui me demande de descendre dans son bureau. Ça n'appelait pas de discussion, hein. Généralement c'était des injonctions. Donc je descends illico, tout à fait cessante. Et il me dit, est-ce que tu vas à Paris cet après-midi ? À l'époque, j'allais en cours dans Paris. Et je lui dis, oui, bien sûr. Et il me dit, est-ce que tu peux passer par le consulat italien ? Alors je dis, oui, bien sûr, je peux passer par le consulat italien. Bon. Et il me dit, parce qu'il faut que je renouvelle ma carte de séjour. Et alors là, je lui dis, mais de quoi tu parles, etc. Mais je dis, il faut que je renouvelle ma carte de séjour. Et c'est ce jour-là, donc à l'âge de 17 ans, que j'ai découvert que mon grand-père avait gardé la nationalité italienne. Et à quel point il était pudique.
Oui, tout à fait, oui, tout à fait.
Alors, ce qui est étonnant quand vous parlez aux gens de Lino Ventura, hein, c'est que ils font un grand rat d'admiration comme ça. Hein. Tout le monde aime Lino Ventura. Il n'y a pas de détracteurs. Comment on peut expliquer ça?
Je pense que c'est un homme qui a traversé durant son enfance des périodes compliquées, qui s'est construit seul et qui avait le sens des valeurs. Il savait ce que c'était que la valeur travail, vous l'avez très bien expliqué dans la bio. Il s'est mis à travailler très très jeune parce que en tant que réfugié italien, quand il est arrivé très jeune, il a été mal accueilli, hein. Il faut pas oublier ce qu'étaient les Italiens à l'époque en France, et donc il a dû se battre pour survivre. Et je crois que ça a façonné une vision des choses et ses valeurs qui ont présidé à sa vie depuis son temps d'enfance. Donc c'est effectivement quelqu'un qui était un personnage très profond, très humain, avec un grand cœur et une très grande rigueur morale. J'imagine que ça faisait écho dans l'esprit du public, et avec ses valeurs, on ne peut effectivement que susciter l'admiration.
Il était comment, votre grand-père, avec vous ?
J'ai envie de vous répondre comme un grand-père. Ouais. Et c'est vrai que on me pose souvent la question de savoir quel rapport j'avais avec lui. Pour moi, c'était un grand-père. Je partageais pendant mon enfance, c'était vraiment mon grand-père maternel. On se voyait pendant les vacances, pendant les réunions de famille, etc. Et quand j'ai vécu chez lui, donc pour mes études supérieures, j'ai vraiment partagé son quotidien. Et c'était d'abord pour moi un très grand privilège, parce que encore une fois, être au contact d'un homme qui a ses valeurs et qui, par osmose entre guillemets, vous les transmet, a été une chance pour moi. Vous savez, je suis arrivé chez mes grands-parents, j'avais 17 ans, mes parents m'ont éduqué et j'étais un peu comme la pièce qu'on sort de l'extrude souffleuse. Il fallait polir un petit peu les aspérités, et mon grand-père a finalement parfait cette éducation que mes parents avaient déjà bien entamée. C'était pour moi une chance d'être au contact d'un homme qui avait ses valeurs et qui me les a transmises. Alors pour autant, je suis loin d'être parfait, hein,
Et est-ce qu'il vous a inculqué un petit peu de culture italienne?
Alors ça, c'est vraiment mon plus grand regret, c'est que malheureusement, je ne parle pas italien. Alors pour autant, la culture italienne, oui, parce que c'était, il a jamais renié ses origines, comme on le disait, garder sa nationalité. Oui, ça s'est transmis par la gastronomie italienne. Je ne vous cacherai pas que on était plutôt sur le versant méditerranéen que sur le versant nordique. Oui, effectivement, ça transpirait.
Alors on va revenir maintenant un petit peu à la fondation Personnage. Alors en 65, Lino Ventura lance un appel pour défendre la cause des enfants pas comme les autres. En 1966, il crée Personnage. Depuis, la fondation accompagne les personnes handicapées et leurs familles. Et on va l'écouter, ce fameux appel de 1965. Alors le son est un petit peu difficile, hein, parce que ça date de loin. Et puis il n'y avait pas les enregistrements de maintenant. Mais tendez bien l'oreille et c'est très très émouvant.
Il s'agit des enfants pas comme les autres. Des enfants que Simone Sinclair a appelés des anges incompris et que la médecine appelle les enfants inadaptés. Je suis père d'une enfant, pas comme les autres. Il y a plusieurs problèmes. Bien sûr, il y a d'abord le fait qu'il faut sauver ces enfants. Il y a aussi le problème de la détresse des parents. Il y a aussi un troisième problème, qui est le suivant. C'est qu'avant, ces enfants s'éliminaient d'eux-mêmes. Maintenant, avec les progrès de la médecine, on les soigne et ils vivent. Alors si on les fait vivre, il faut avoir la dignité, le courage de les emmener jusqu'au bout de leur vie. Et c'est ce qui n'est pas le cas. Et il y a aussi donc ce problème majeur qui habite les nuits sans sommeil de tous les parents, qui est le suivant. Quand nous ne serons plus là, que deviendront-ils? Ces parents, vous pouvez les aider. Vous pouvez les aider de plusieurs façons. Tout d'abord, je crois que vous pouvez les aider avec beaucoup de chaleur humaine. C'est-à-dire que lorsque vous rencontrez un enfant pas comme les autres dans la rue, il ne faut pas le regarder comme un monstre. Il ne faut pas le regarder avec de la pitié. Ce n'est pas de la pitié que ces gens-là veulent. Au contraire, c'est de la justice, c'est de la chaleur humaine. Vous pouvez les aider également en nous apportant de l'argent. Bien sûr, si je suis là, c'est pour ça. Parce que je sais que c'est avec quelque chose de concret et de palpable qu'on pourra arriver à nos fins. C'est-à-dire qu'avec cet argent, je voudrais construire un centre pilote. Un centre où on puisse prendre des enfants, les rééduquer, essayer à un âge avancé d'essayer de leur faire faire quelque chose de leurs mains, des ateliers, essayer qu'ils puissent se réintégrer dans la société quand nous ne serons plus là. Il faut que je réussisse. Voilà. Merci.
Alors, c'est un appel très poignant.
C'est touchant, hein. Incroyable. Même maintenant, à le réécouter, ouais. ça fait quelque chose, ouais. Quoi.
En plus, c'est fou parce que c'est avec des mots de 1965, parce qu'il y a des mots qu'on n'emploierait peut-être plus maintenant, comme des monstres. Quand il parle des gens, il faut pas les considérer comme des monstres. Sûrement, maintenant, on dirait, au niveau de la communication, non, faut pas dire ces choses-là, quoi. voilà. Et qu'est-ce qu'il avait dans la tête, à votre avis, quand il a lancé cet appel?
D'abord, je voudrais souligner que cet appel, il est extrêmement émouvant, mais c'est surtout un acte extrêmement courageux de sa part. Il faut se replacer dans le contexte des années 60, donc l'appel date du mois de décembre 65. En 1965, le handicap était effectivement tabou. On cachait les personnes en situation de handicap mental. Le terme de monstre, il n'est pas sorti de nulle part. C'est qu'effectivement, les gens les considéraient comme des monstres. Donc vous imaginez un Lino Ventura, déjà au fait de sa carrière, qui prend la parole à l'ORTF. Alors l'ORTF, pour les moins de 40 ans, c'était la seule et unique chaîne de télévision en France. Donc vous aviez 100% des téléspectateurs branchés sur l'RTF. Et ces téléspectateurs, ces admirateurs. Donc vous imaginez Lino Ventura prendre la parole et révéler qu'il est père d'une enfant pas comme les autres. C'est un acte d'un courage inouï, parce qu'il met en jeu, finalement, il ne sait pas comment le public va réagir. Enfin, ce qu'il sait, c'est que la société civile de l'époque considère les enfants handicapés comme des monstres. Et donc, il explique qu'il est père d'une enfant pas comme les autres. Potentiellement, les gens peuvent se dire, mais voilà, qu'est-ce monsieur ? Il a enfanté un monstre, parce que, encore une fois, hein, on reprochait aux parents d'avoir enfanté les personnes en situation de handicap.
Ça se faisait absolument.
C'est invraisemblable, hein, maintenant, avec un peu de recul, quand on y pense. Mais c'est la réalité. Ouais. Donc voilà, moi je tiens à saluer l'acte héroïque de mon grand-père à cette époque-là, parce qu'il met finalement un peu sa carrière en jeu. Et puis au-delà de ça, c'est son cœur qui parle. C'est son cœur de père en détresse qui souhaite justement faire comprendre à la société civile que ce ne sont pas des monstres. Ce sont des personnes comme vous et moi. Elles sont juste différentes. Mais elles ont leur joie, elles ont leur peine. Et elles méritent, comme tout à chacun, d'être considérées et d'avoir droit à un toit et une vie, même si elle est un petit peu différente de la nôtre.
Alors on va faire une pause musicale avec une chanson que tu as choisie, Jean, Dalida.
Le clan des Siciliens, d'Henri Verneuil. Voilà, une chanson agréable d'écoute.
Alors nous sommes avec Monsieur Christophe Lacerventura. Merci de répondre à toutes ces questions par rapport à Lino Ventura. On a compris que bon, la carrière c'était une chose, mais cet appel va sûrement changer complètement sa vie.
Oui, parce qu'effectivement, suite à cet appel, qui a eu un impact colossal, qui a finalement dessillé le regard des gens sur le handicap, mes grands-parents ont donc créé l'association Personnage en 1966, et cela a été le début d'une très belle et longue aventure, puisque aujourd'hui, Personnage gère plus d'une cinquantaine de maisons à travers la France et accueille environ 1500 personnes en situation de handicap mental.
Alors vous avez repris en 1995, et depuis 1995, donc c'est vous le président, et vous avez développé en fait ce qu'a commencé Lino Ventura. Moi, ce que je trouve étonnant dans votre parcours et puis dans la discrétion de cette fondation, c'est que c'était un peu comme Lino Ventura, c'est-à-dire que il y a pas de vague, quoi. Il y a 50 établissements en France, ça veut dire combien de malades qui sont pris en charge?
Alors, on n'appelle pas ça des malades, on appelle ça des résidents.
Des résidents, oui. C'est important.
C'est très important. Et donc, effectivement, plus de 1500 environ résidents accueillis dans nos maisons.
C'est incroyable. Incroyable. 1500 personnes qui sont donc dans vos établissements. Et l'État, est-ce que l'État est avec vous? Ou est-ce que financièrement, est-ce que les dons suffisent? Comment ça fonctionne un peu? Parce qu'on a du mal à comprendre comment on peut gérer 50 établissements.
Alors, sans rentrer dans des détails techniques, effectivement, l'État finance le fonctionnement de nos maisons et les dons ou legs que nous recevons nous permettent de financer la construction des maisons. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est le principe, c'est un, fait partie des principes régaliens. En France, c'est l'État qui finance la partie fonctionnement des maisons médico-sociales.
Moi, j'ai une question personnellement parce que j'essaye de donner quand même pas mal à des associations. Et quand j'en parle autour de moi, il y a souvent des gens qui me disent « Oui, mais de toute façon, la plus grosse partie de l'argent part dans le fonctionnement, l'administration et peu de choses vont au final aux gens qui sont réellement concernés. » Est-ce que vous pouvez m'aider à donner des éléments pour contrer un peu ces arguments qui sont assez débiles, hein, entre nous?
Alors, je peux vous donner un chiffre très précis qui est officiel. C'est lorsque vous faites un don de 100 euros à la Fondation Personnage, il y a 92 euros qui vont à la cause et 8 euros qui partent dans les frais de fonctionnement.
Ça, c'est une très bonne réponse. Hein, très bonne réponse.
Ça veut tout dire. Alors, au début, c'était plutôt donc pour les personnes atteintes de trisomie 21. Et après, ça s'est ouvert à toute sorte de pathologie. Alors, on va pas dire maladie, puisque voilà, moi j'ai dit maladie, mais ça c'est voilà, c'est des termes aussi qu'on employait un petit peu avant et qu'il faut enlever. Pourquoi cette ouverture?
Eh bien parce qu'il faut effectivement pouvoir accueillir tous les types de handicap. Effectivement, au départ, mes grands-parents ont ouvert la maison de Sèvres qui était dédiée à des profils de trisomie 21. Mais aujourd'hui, nous accueillons tout type de handicap, y compris nous avons ouvert à Boulogne-Billancourt la première et à ce jour unique maison pour personnes Loctine syndrome. Donc nous sommes très très fiers et très très contents de pouvoir apporter cette capacité d'accueil, mais nous avons entre guillemets tout le panel d'offres à travers des maisons d'accueil spécialisées ou des foyers occupationnels ou ce qu'on appelle des foyers d'accueil médicalisés, mais on va pas rentrer dans les détails technocratiques.
Alors on va écouter un extrait encore d'un film de Lino Ventura, et là c'est un extrait de L'Aventure, c'est l'aventure.
Mais écoutez mes enfants, il faut bien que vous compreniez quelque chose, c'est primordial, il faut qu'on se réveille. On est au bord du précipice, et ça il faut bien qu'on se le mette dans le tronc. Le capital, tu viens de le dire toi-même, le capital c'est fou.
Ah oui, ça c'est fou.
Bon, la société de consommation c'est fou, les voitures, c'est foutu. La cinquième, c'est foutu.
Bon, qu'est-ce que c'est la cinquième?
La République, imbécile.
Alors, revenons à parler de la fondation Personnage. Alors, votre devise sur le site, c'est « Le bonheur des personnes extraordinaires commence avec des donateurs exceptionnels ». Alors, pourquoi cette phrase? On en parlait, là, justement, des donations. On a vu que 92% des dons vont pour, pas le fonctionnement, mais pour les gens qui sont
extraordinaires.
Extraordinaires.
Eh bien, parce qu'ils sont extraordinaires, effectivement. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas le handicap, je les invite à vraiment aller au devant de ces personnes en situation de handicap mental, parce que elles ont souvent beaucoup plus à nous apporter que ce que nous sommes en mesure de leur apporter. Vous savez, moi, je suis né, je suis tombé dans la marmite étant petit, avec ma tante qui est donc handicapée. Je dois reconnaître qu'à chaque fois que je vais dans nos maisons, j'en ressors enrichi humainement, parce que ces échanges avec ses amis, parce que c'est presque aujourd'hui des frères et sœurs, des amis pour certains, sont d'une richesse et d'une humanité dont vous ne prenez pas forcément conscience de prime abord. Vous savez, ce sont des personnes qui sont d'une totale transparence. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas la pose sociale, il n'y a pas de masque social. Ils sont, j'ai envie de dire, bruts de décoffrage. Ils sont sincères, ils sont naturels. Et ça vous ramène un petit peu à des choses plus vraies, plus profondes.
Alors on va écouter quelqu'un qui était de Parme, hein, comme Lino Ventura. C'est Verdi qui nous interprète la Traviata. Nous sommes avec Monsieur Lasser Ventura et on parle de la fondation Personnage. Alors, quelles sont vos relations avec les familles? Parce que ça, doit être peut-être compliqué parce que peut-être il faut du temps pour avoir une place pour aller dans vos structures. Combien de temps il faut si on a besoin d'aller dans une de vos structures, comment ça se passe?
Non, malheureusement, il faut beaucoup de temps parce que lorsque nous ouvrons une maison, elle est très vite pleine. On a beaucoup plus de demandes que de places à offrir. C'est d'ailleurs un exercice toujours très compliqué parce qu'il faut faire un choix alors qui est motivé par une commission d'admission. Et donc après, il faut s'inscrire sur une liste d'attente et ça peut prendre un certain temps dans la mesure où quand nous accueillons des nouveaux résidents, c'est pour la vie. Donc il faut attendre qu'une place se libère.
Bon, il n'y a pas de date précise, en fait. C'est,
ah non, ça, je peux
ça,
pas
ça
vous,
peut être je, entre...
Ça peut être 6 mois, parce qu'on a malheureusement un décès prématuré, comme ça peut être 10 ans, parce qu'ils sont tous en pleine forme.
Ça dépend des régions, peut-être, aussi
Si la santé dépendait de la région, on serait tous dans la région où il fait bon vivre.
Des structures, je voulais dire, peut-être... Vous avez
alors, ça dépend effectivement des typologies de maisons, parce que vous avez des maisons... qui accueillent des personnes polyhandicapées et qui, pour certaines, ont une santé plus fragile. Oui, vous avez raison, mais je peux pas vous donner de date, ça c'est impossible.
On parle en antenne aussi du cursus scolaire.
Oui, c'est important. Et puis le contact avec le monde extérieur, je pense qu'il est indispensable pour ces personnes en situation de handicap.
Oui, absolument. Notre politique en ce sens, sur ce point, elle est dictée par une très grande inclusion. Il est évident qu'on ouvre nos maisons sur l'extérieur et l'extérieur rentre également dans nos maisons. Donc on organise des journées portes ouvertes, nos résidents sortent pour aller faire leurs courses pour ceux qui en ont la capacité, ils vont en séjour de vacances. Donc il est très important d'avoir cette inclusion dans la société, justement pour pouvoir aussi faire prendre conscience à la société civile de ce qu'est le handicap. Parce que, encore une fois, je crois qu'ils sont beaucoup à nous apporter.
Alors, on va écouter un extrait d'interview où là, il y a de l'humour. Hein, il avait de l'humour, hein, Lino. Il se prend pour Indiana Jones, écoutez.
Si demain, vous me proposiez d'aller faire, moi, par exemple, je ne sais pas, les aventuriers de l'Arche perdue, moi, là, je suis complètement à côté de la plaque. J'y crois pas, personnellement. La fiction, je suis un très mauvais client. Je suis trop cartésien pour ça, ce qui n'est pas une qualité, mais enfin, moi, je suis comme ça. Bon, les films d'horreur, je me vois pas dans un film d'horreur. Les films d'horreur ont un effet désastreux sur moi, c'est qu'ils me font éclater de rire. Ah, oh, c'est épouvantable. Non, mais je veux dire, alors, vers quoi est-ce que je vais aller?
Ça, c'était trop drôle, quoi, parce que franchement, voilà, les films d'horreur qui font rire les Noventura. Voilà. Alors, au fil des ans, la fondation s'est développée, puisque vous avez 50 établissements. Quels sont vos projets pour les prochaines années?
Écoutez, nous avons de nombreux projets d'ouverture dans les mois et années qui viennent. Nous avons également pour projet de créer ce que l'on appelle des classes soleil. Ce sont des classes pour jeunes enfants autistes à la maternelle. Nous avons également pour projet d'ouvrir une école personnage pour les professionnels du handicap. Nous avons pour projet d'accompagner la recherche appliquée dans le domaine du handicap mental. Donc beaucoup de projets.
Vous avez pris les rênes de cette fondation en 95 et ça fait 23 ans que vous êtes à la tête de cette fondation. C'était naturel pour vous de reprendre le flambeau parce que c'est un travail monstrueux, j'imagine.
Oui, c'était naturel parce que, comme on l'évoquait en début d'émission, j'ai eu la chance de partager le même toit que mon grand-père. De surcroît, j'étais l'aîné des petits-enfants, donc il y avait une très forte complicité entre lui et moi. Et de façon implicite, il m'a passé le relais. J'avais cette charge à accomplir. Donc ça s'est fait très naturellement. Et aujourd'hui, je dois reconnaître que même si ça fait 28 ans que le conseil d'administration me renouvelle sa confiance, j'ai toujours autant d'envie, d'énergie pour continuer cette magnifique œuvre qui a été créée par mes grands-parents.
Alors on va écouter une dernière chanson de cette émission, Adriano Celentano, que tu as choisi, Jean.
La Tour, et parce que bon, je pense que le titre est recommandé vu qu'on parle de Lino Ventura.
Sì. vieni al cinema insieme a me. C'è l'attore che piace a te. Ma chi è, ma chi è? Ma chi sarà, ma chi sarà? Frank Sinatra tu penserai, l'uomo che non tramonta mai. Lui non è, lui non è. Ma chi sarà, ma chi sarà? Vieni al cinema e lo saprai.
Vieni al cinema e lo saprai.
Al tuo fianco lo troverai.
Al tuo fianco lo troverai.
Sai chi è, sai chi è? Sono io, sono io. Sono io, sono io. Dallo schermo capirai che amo te. È un dialogo fra noi, quel che non ti ho detto mai. Finalmente lo saprai e nel buio cercherai questa mia bocca di uomo che un bacio d'amore ti darà. E non sarò falso come l'attore del film che vedi là. Vieni al cinema insieme a me, c'è l'attore che piace a te. Ma chi è, ma chi è? Ma chi sarà, ma chi sarà? Frank Sinatra tu penserai,
Frank Sinatra tu penserai.
L'uomo che non tramonta mai,
l'uomo che non tramonta mai.
Lui non è, lui non è. Ma chi sarà, ma chi sarà? Da ba 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 da ba.
Une question que beaucoup de gens se posent, pourquoi avoir choisi le nom de personnage?
C'est Pierre Tchernia, qui faisait partie des membres fondateurs, qui a émis l'idée de ce nom, parce que le personnage est la seule fleur qui s'épanouisse malgré l'environnement hostile. C'est la première fleur qui transperce le manteau neigeux, et malgré le froid, elle s'épanouit. Et donc c'est une très belle métaphore pour dire que malgré le handicap, on peut s'épanouir.
Ah oui, c'est beau, oui, effectivement, oui.
Alors c'est la fin de cette émission. Comment on peut aider Personnages? Alors il y a des dons, mais est-ce que vous avez besoin aussi peut-être de bénévoles?
Alors on a surtout besoin de dons que vous pouvez faire à travers notre site internet qui est donc le www.perse-neige.org. Si des gens souhaitent se manifester dans le voisinage de nos maisons, ils seront toujours bien accueillis et on trouvera toujours quelque chose à leur faire faire.
Une question aussi qui était intéressante que tu voulais poser par rapport aux animaux.
Oui, bah c'était de savoir si dans les maisons les animaux ont un rôle de thérapie pour les patients.
Oui, oui, dans certaines maisons, nous utilisons la médiation animale, nous pratiquons beaucoup l'équithérapie. Effectivement, c'est quelque chose qui est très apprécié et de nos résidents et de nos professionnels.
Pour en revenir aux dons, on a à notre écoute beaucoup de personnes âgées. Je suis pas certain que tout le monde ait accès à Internet. Est-ce qu'il est possible d'envoyer des chèques directement et si oui, à quelle adresse?
Absolument, et vous pouvez les envoyer au 7 bis rue de la Gare, à Levallois-Perret, et de mémoire, c'est 92 300.
C'est là où il y a le siège.
Hein. C'est là où il y a le siège social, absolument.
On salue Madame Duretail, parce que, qui a été très gentille pour nous mettre en relation pour
notre responsable communication.
Voilà, pour faire cette émission. Et on termine avec un extrait de la vidéo des 50 ans de la Fondation Personnage, où il y avait 40 acteurs et actrices, hein, en 2015. On sent que dans le showbiz, on aime beaucoup Personnage et puis Lino Ventura. Et donc, voilà, c'est, on sent que si vous avez besoin, on a l'impression qu'ils sont là.
Absolument, et d'ailleurs certains nous sont très fidèles, comme Bruno Solo, qui est à nos côtés maintenant depuis une bonne vingtaine d'années, et qui fait un travail engagé et un travail de fond, qui prête et son image et sa voix à nos différentes campagnes de publicité.
Merci à vous, et puis on était très contents de faire revivre un peu la carrière de Lino Ventura, et puis grâce à vous, cette fondation Personnage qui est si importante en France.
Voilà. Merci à vous, merci à Radio Alire.
Et n'hésitez pas pour les dons, c'est très important.
On salue aussi Pierre Le Borne qui était à la technique.
Je crois beaucoup dans les initiatives des gens, des associations. Je crois que ça, c'est vraiment l'exemple de, à un moment donné, quelqu'un qui se dit « Merde, on peut faire quelque chose ».
Il a été un des premiers à mettre sa célébrité au service d'une cause comme l'autisme. Et de ça, c'est formidable. Alors, moi, je suis déjà parrain de beaucoup d'associations. Moi, je me suis dit « Je viens quand même parce qu'on se doit de fêter un anniversaire d'une association comme celle-ci ».
Il y a 50 ans, Lino Ventura lançait un appel pour alerter l'opinion sur la question du handicap mental. Alors, il créait l'association Personnage pour aider et accompagner les personnes pas comme les autres et leurs familles, mais aussi pour lutter contre les préjugés. Voilà pourquoi, aujourd'hui, à l'occasion des 50 ans de Personnage, ils se sont réunis. Des acteurs, des actrices, hommes et femmes de cinéma, pour immortaliser cet instant à travers une photo et soutenir l'association. Prendre le relais du combat initié par Lino Ventura, en lançant à leur tour un nouveau message de solidarité. Tous avec Lino.
Soutenez Personnage, c'est important.
Voilà, merci.
Cappuccino, le dimanche matin, c'est subito, presto, fortissimo et pianissimo.